L'info s'éclaire, près d'un mois de guerre et des civils ukrainiens pris pour cible. Le président Zelensky et son peuple implorent les Européens de leur venir en aide militairement. L'info s'éclaire est intitulée « Guerre en Ukraine ». L'Europe doit-elle intervenir ? Nos invités, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des affaires internationales. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique des États-Unis, c'est aux éditions Erol. Et François Baudonnet, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Donc les civils, on l'a dit, payent un lourd tribut à cette guerre. Et parmi les victimes, des enfants, voyez ce reportage très trouble, très dérangeant dans l'hôpital de Kiev de Nenayem.
Volodymyr, 13 ans, est un miraculé. Le 26 février dernier, deux jours après le début de la guerre en Ukraine, la voiture dans laquelle il se trouvait a été criblée de balles. Son père et son cousin ont tous les deux été tués lors de l'attaque.
Son visage était blessé, sa mâchoire était cassée, son nez aussi. Sa jambe touchée à deux endroits, son bras aussi. Et il y avait une ou deux balles dans le dos, je ne me souviens plus. Nous n'avons pas réalisé qui tirait. Dès que tout sera terminé, nous le découvrirons et ils seront punis.
Et c'est pour éviter les bombes que les familles vivent terrées dans des caves depuis des semaines, avec des enfants qui, au lieu de jouer dehors, eh bien, ne voient plus le jour de la lumière. Voyez ce reportage, cet extrait à Tchernihiv de Agnès Varamian et Soufiane Yassine.
Nous rencontrons Natacha. Elle a une urgence. Nous montrer ses caves où des dizaines de personnes s'abritent chaque nuit. Les visages blanchâtres qui ne voient pas le jour. Des enfants épuisés.
Ce n'est pas un endroit pour vivre. Ça fait 25 jours qu'on est là. On est là depuis le début.
François Baudonnet, c'est ce qui frappe. Hein. Le Figaro ce matin fait d'ailleurs sa une sur cette Russie qui intensifie ses frappes contre les civils. Est-ce que c'est ce que Vladimir Poutine avait prévu de s'en prendre à des civils ? Et c'est le signe de quoi quand on s'en prend à des gens qui, par définition, ne sont pas armés ? Enfin, ces enfants, ils n'ont pas d'armes.
Alors c'est difficile de dire qu'il avait pas prévu ça, parce que si on regarde ce qu'il a fait par le passé, ce qu'a fait la Russie par le passé, on a vu que les civils ont été la cible dans des conflits précédents. Donc là, il est en train de se passer, je crois, exactement la même chose. Ce que ça montre aussi quand même d'une certaine façon, c'est que là, on va arriver à un mois de conflit, là, dans quelques jours. Et c'est vrai, on le dit, on le répète, mais je pense que c'est la réalité. Les choses, quand même, vont moins vite que ce que Vladimir Poutine pensait. Et là, il est prêt absolument à tout pour arriver à ses fins. Alors effectivement, le bombardement des civils, ça fait partie des choses qu'il pratique. Mais peut-être qu'on en reparlera, on craint aussi l'utilisation d'armes chimiques, par exemple.
Joe Biden, d'ailleurs, redoute l'utilisation. Marie-Cécile Nave, on parle aussi de crimes de guerre. C'était Le Monde l'autre jour qui faisait sa une là-dessus. Ça veut dire que, ça y est, Vladimir Poutine, maintenant, il est dans un voyage sans retour. Au fond, il n'a plus que l'avant. Il ne peut plus reculer face à ce qu'il a fait, aux horreurs qu'il est en train de commettre.
C'est une hypothèse de plus en plus forte. Hein. On voit qu'on est dans une escalade et que le fait que la Russie ait multiplié par 4 son budget militaire en l'espace de 20 ans ne l'aide pas visiblement à progresser sur le plan stricto sensu militaire. C'est-à-dire que ça marche pour l'artillerie lourde, pour les combats en Crimée, etc. Ça avait fonctionné. Mais dès qu'il s'agit de combats urbains, elle semble désemparée. Donc elle utilise une autre tactique qui est de s'en prendre aux populations civiles. Si jamais les armes chimiques sont utilisées, ce qui serait une rupture totale des traités auxquels la Russie a adhéré, elle n'a même pas le droit d'en posséder d'ailleurs, là il n'a plus aucune marge de négociation. Là c'est vraiment le point de non-retour vis-à-vis des adversaires. Il n'y a plus de marge de négociation. En revanche, si la Russie prend Kiev, là il aura encore une marge de négociation et la diplomatie pourrait fonctionner. Mais les armes chimiques, là, ça serait vraiment un point de non-retour et on saurait qu'il voudrait aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'à peut-être la destruction complète du pays.
Anthony Bélanger, c'est vrai que les Russes sont en train de prendre Mariupol après l'avoir rasée. La ville a été rasée à 80%. Question, est-ce qu'il peut infliger le même traitement à Kiev. Je pose la question parce que les Russes disent que Kiev, c'est leur berceau. Oui. C'est leur, leur cathédrale de Chartres.
Le problème, c'est qu'on est toujours plus raisonnable que Poutine. C'est-à-dire que dans nos commentaires, on retient un petit peu nos chevaux de peur d'avoir à prédire le pire. Qui aurait imaginé qu'il traiterait Mariupol comme Grozny ? Qui aurait imaginé qu'il traiterait Mariupol comme Alep ? Qui aurait imaginé qu'il traiterait Mariupol de cette façon, c'est-à-dire avec des canons, avec des canons tendus, bombardés à canons tendus sur la ville, sur les habitants. Et je voulais juste expliquer pourquoi est-ce qu'il le fait, parce que c'est une stratégie qu'utilise la Russie depuis toujours. Au fond, la Russie, il a probablement en tête et Stalingrad, et Leningrad, et ces sièges qui ont duré des mois et des mois, dans lesquels, effectivement, la population, pour le coup du côté russe, a joué un rôle essentiel. Et dans la façon dont il traite Mariupol, il y a cette idée que plus on tape sur les civils, plus on encombre les hôpitaux, plus on encombre les rues de malheur, plus on désorganise les lignes de défense, plus on affame aussi la population.
C'est
le chaos. Et c'est ce qu'il veut faire. Vous parliez d'armes chimiques. Il peut effectivement employer des armes chimiques qui ne seraient pas tout à fait hors limite. Par exemple, s'il aspergeait entièrement, et c'est possible avec des armes à sous-munitions, une ville entière ou un quartier de ville de gaz lacrymogène très puissant pour faire sortir les défenseurs de leur cachette. Est-ce que ce serait une arme chimique ? A priori, oui, ce sont des armes chimiques, ou pas. Est-ce qu'on considérait ça comme une ligne rouge ou pas ? On sait que les Américains ont commencé à dire qu'ils pourraient les utiliser. Il faudra voir quel type. Et surtout, ils pourraient l'utiliser sur des villes dans lesquelles nous n'avons pas de correspondance. Je pense à Soumy, par exemple. Ou des petites villes plus... Enfin, Soumy n'est pas une petite ville, c'est 1300 000 habitants. Enfin, où il n'y aurait pas forcément...
d'occidentaux
de journalistes pour prendre des images. Donc pas forcément à Kiev, hormis des gaz lacrymogènes, et pas forcément donc à Mariupol ou à Kharkiv, qui sont des villes extrêmement bien couvertes par les médias occidentaux.
Alors, vous faisiez la référence à ce que Vladimir Poutine a infligé à la Tchétchénie, et nous avons retrouvé le reportage qui date d'il y a 22 ans. L'armée russe est intervenue en Tchétchénie. Elle a rasé la capitale Grozny. Ben, je vous propose de revoir le sujet qui avait été tourné. C'était le 3 février 2000. Et vous allez voir, les images, malheureusement, sont très ressemblantes avec ce que vivent aujourd'hui les Ukrainiens. On regarde.
Le silence dans ce qui reste de la capitale tchétchène. Première journée sans bombardement depuis le début de l'offensive russe en septembre dernier. Les civils du centre de Grozny sortent enfin des caves où ils sont restés terrés, paralysés par la peur, pendant 4 mois. Sur la porte, une inscription. Ici, on vit, comme pour marquer l'espace réservé aux civils. Sortez-moi de là, implore cette survivante. Emmenez-moi n'importe où, mais sortez-moi de là. Les soldats russes prétendent contrôler enfin les ruines de la capitale rebelle. Pourtant, ils ont ordre après 18 heures de tirer sans sommation sur tout ce qui bouge.
Sujet de Jérôme Bonny, François Baudonnet, c'est troublant d'ailleurs, comme ces images ressemblent à celles que l'on voit en ce moment quotidiennement.
Troublant, c'est exactement les mêmes images, c'est exactement la même situation.
Et pourquoi à l'époque on semblait moins touché ? Parce que c'est plus loin la Tchétchénie ?
Alors, il y a peut-être ça. Il y a là le fait que c'est vraiment aux confins de l'Europe, en tout cas aux confins de l'Union européenne, mais véritablement sur le continent européen. Il y a la taille, évidemment, du pays, 45 millions d'habitants. Évidemment, c'est un grand pays, à la fois en superficie et en population. Et puis, je crois qu'il y a aussi le risque d'extension du conflit qui est là, évidemment, avec l'Ukraine, est très présent. On en parlera peut-être, mais par exemple, la Pologne, aujourd'hui, est de plus en plus en première ligne face à la Russie.
Juste ajouter une chose très importante à comprendre, c'est que les Russes avaient mis plusieurs mois avant d'en finir avec la rébellion tchétchène, alors qu'ils ont tué, ils ont aplati sous les bombes une ville entière et tué un cinquième de la population tchétchène.
En 2000.
C'est dire qu'on est à la fois loin des chiffres et loin de ces possibilités-là sur une province qui est toute petite. Il y avait 1 million de Tchétchènes, il y en a 200 000 qui sont morts. Donc c'est vraiment une Tchétchénie épuisée par les tapis de bombes.
Donc il avait déjà
russes.
Des méthodes épouvantables. C'était la première année 2000, il venait d'être élu président.
C'était possible parce que son armée était énorme, en proportion, par rapport à la petite Tchétchénie, à sa petite population. Vous avez raison de souligner que l'Ukraine, c'est une autre affaire. C'est 600 000 km², c'est plus grand que la France. Et ça, il y a 40 à 45 millions d'habitants. Il s'agit d'une Tchétchénie puissance 10, 20, 30.
Marie-Cécile Nave, l'armée russe, en fait, elle ne pourrait pas, même si elle le voulait, contrôler un pays. C'est 600 000 km², c'est plus vaste que la France, et 40 millions d'habitants.
Déjà, elle a sous-estimé visiblement la résistance ukrainienne, non seulement d'une partie de la population qui s'engage dans l'armée, mais de l'armée elle-même, même si c'est quand même pas une armée qui a d'énormes moyens, hein, c'est un faible PIB, etc. Et ce que la Russie a sous-estimé aussi, c'est l'unité occidentale, on en reviendra peut-être, le fait que à la fois l'OTAN, mais aussi l'Union européenne avec les États-Unis de Joe Biden, eh bien, sont quand même relativement et même très unis. Bon, il y a des dissensions sur les sanctions, sur le pétrole, etc. Ils quand même sont relativement unis, sont très unis même sur l'attitude à adopter, c'est-à-dire on ne va pas faire guerre. La guerre tant qu'un pays de l'OTAN n'est pas attaqué, c'est l'article 5 du traité, mais... Si ça arrive, eh bien, on verra ce qui peut se passer. Mais on livre des armes aux Ukrainiens, on fournit une aide humanitaire importante et on déploie des discours de condamnation extrêmement forts, ce qui fait réactiver du côté russe, d'ailleurs un peu avec l'aide des Chinois, la désinformation, les fake news, pour éviter de contrer ces discours-là.
François Baudonnet.
Juste pour répondre à votre question, en fait, la Russie pensait effectivement qu'elle allait pouvoir très rapidement prendre le contrôle de l'Ukraine. Et en fait, cette phase numéro un, elle n'y est même pas. Et là, on est toujours dans une guerre, on va dire, conventionnelle, avec deux armées qui s'opposent, avec des missiles, avec des tanks, etc. Mmh. Ce qui devait être, pour la Russie, la chose la plus facile, puisqu'elle est, on le sait, son armée formatée pour ça, est beaucoup plus forte que l'armée ukrainienne. Et on va vraisemblablement rentrer dans une deuxième phase qui sera encore plus compliquée pour les forces russes. C'est celle de la guérilla urbaine, où là, les Ukrainiens sont chez eux, ils connaissent parfaitement, et on sait que sur le plan militaire, c'est extrêmement compliqué de se battre à l'intérieur d'une ville. Et ça sera la deuxième étape, et ça sera donc encore plus compliqué pour les Russes.
La guérilla urbaine dans Mariupol et demain dans Kiev, s'il doit prendre Kiev.
Alors, il y a une autre théorie qui est soutenue par les militaires, qui disent qu'en fait, les Russes sont en train de faire ce qu'ils ont fait en fait à Luhansk et à Donetsk, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se retrancher et de commencer une guerre d'usure. Et là, pour le coup, le temps ne jouera pas pour les Ukrainiens. La guerre d'usure, c'est terrible, mais les Russes savent.
C'est-à-dire qu'on reste derrière.
On reste derrière ce qu'on a déjà
fait. Et on bombarde.
Et on bombarde en enterrant son artillerie et ses soldats en plein des tranchées. C'est ce qu'ils font depuis 7 ans à Luhansk et à Donetsk, cette petite région qu'ils contrôlaient déjà à l'extrême est de l'Ukraine. Ça préoccupe beaucoup les spécialistes parce que ça, pour le coup, bombarder continuellement en ayant les moyens de ravitailler leurs pièces d'artillerie, puisque la Russie sera très proche, à une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de kilomètres. C'est effectivement ce qu'ils ont réussi à faire pendant 7 ans à Luhansk et Donetsk et ce qu'ils pourraient être en train d'essayer de faire au moins dans le nord du pays.
Alors, face à cet acharnement de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky implore les Européens à intervenir car, dit-il, sinon, c'est vous demain qui serez menacés, donc nous qui seront menacés par Vladimir Poutine. Le président ukrainien a accordé une interview exceptionnelle à France Télévisions hier à Agnès Varamian. Je vous propose d'écouter cet extrait réalisé avec Soufiane Yassine et Samasoula.
Mais comprenez-vous que les Européens ne souhaitent pas entrer en guerre contre une puissance nucléaire ? Est-ce que finalement, ce n'est pas un acte de courage de leur part de prendre cette décision ?
Mais quand vous dites que le courage, c'est de ne pas s'engager dans la guerre parce qu'il y a le risque d'une guerre nucléaire, eh bien, je vous réponds non. Un jour, vous allez vous réveiller et comprendre ce que nous avons compris. La guerre est déjà là. Et ce sera trop tard. L'Europe doit tout faire pour que la Russie ne se sente pas le maître du monde.
Et les civils ukrainiens tiennent le même discours et disent « C'est bien beau de nous envoyer des armes ou des médicaments, mais soyez militairement à nos côtés. » Écoutez ce que dit ce médecin dans un hôpital à Mykolaïev. On l'écoute.
Ça ne sert à rien de nous envoyer des médicaments si on ne ferme pas notre espace aérien. Sinon, demain, les Russes seront aux frontières de l'Europe.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire, là ? Demain, Vladimir Poutine n'est pas assez fou pour aller s'attaquer physiquement
ça dépend
à la France, à l'Allemagne, à l'Italie.
Non, mais à un pays intermédiaire comme la Moldavie ou alors envoyer des missiles d'un type d'avertissement du côté polonais pour essayer de tester l'adversaire. Il n'arrête pas depuis 6 mois, 1 an de tester les forces de l'OTAN aussi bien dans nos eaux territoriales en faisant émerger des sous-marins nucléaires ou pas d'ailleurs par exemple dans le golfe de Stockholm, pas très loin sur les côtes suédoises, ou tout simplement notre aviation en multipliant les vols de bombardiers à l'orée au bord des eaux territoriales françaises, britanniques, un peu partout d'ailleurs. Il a même fait des essais militaires, enfin pas des essais, des manœuvres militaires du côté de la mer d'Irlande. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de tester les Européens. Et par ailleurs, on peut imaginer que vraiment acculé par l'armée ukrainienne voulant s'opposer à la livraison d'armes qui deviennent de plus en plus sophistiquées, parce qu'il y a une gradation dans la livraison des armes. On a commencé par des munitions et des casques, on en était beaucoup moqués au début. Là, maintenant, on est au Stinger et au Javelin, ce qui sont des armes...
Des missiles pour détruire des chars.
Des chars et...
Des avions.
Et des avions, et ça, c'est plutôt efficace. Certains Américains, même certains Occidentaux, demandent à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire des défenses antiaériennes, de l'armement beaucoup plus lourd, voire même des avions, on en avait déjà parlé. Donc on voit bien qu'on est en train d'entrer dans une espèce de gradation qui peut être effectivement compliquée.
Marie-Cécile Nave, c'est vrai qu'on avait une stratégie simple. On aide, mais on n'intervient pas. Est-ce que c'est aussi simple ou est-ce qu'il y a une zone grise où on pourrait se retrouver embrigadé, embarqué dans une guerre qu'on n'a pas voulu Anthony Bélanger disait, c'est vrai, s'il y a un missile qui tombe côté polonais, s'il y a un bateau qui se prend un missile dans la mer Noire, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, si un pays de l'OTAN est attaqué. Tout simplement. Et ça peut être aussi une attaque indirecte, c'est-à-dire, balle perdue, entre guillemets.
Oui, balle perdue. Voilà.
Et là, elle est là, la zone grise. C'est-à-dire, est-ce que si un pays de l'OTAN est attaqué par l'armée russe, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une erreur ? La zone grise, elle est là. Mais si c'est volontaire, il y a une solidarité dans le traité de l'Atlantique Nord. C'est l'article 5 qui fait que les autres pays doivent défendre celui qui est attaqué. Et alors là, si
qui a envie d'y aller ?
Personne. En Europe, aux États-Unis surtout, personne. Mais si l'OTAN entre véritablement en guerre, l'armée russe n'a absolument aucune chance. Ça serait vraiment la dernière.
Et il le sait, ça, Vladimir Poutine.
Bien sûr qu'il le sait.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est.
François Baudonnet.
Comme on dit sur ce que disait Anthony Bélanger tout à l'heure, c'est que, en fait, depuis le début, depuis avant le début de ce conflit, on a toujours essayé de voir Vladimir Poutine, sur le
stratège.
Oui, et puis le bénéfice-risque pour lui.
Oui,
et en fait, souvenez-vous, tout le monde disait, ici même, je crois, qu'il n'avait aucun intérêt à entrer en Ukraine. Et il l'a fait. Là, évidemment, si par exemple il y avait une guerre contre l'OTAN, il n'a aucun intérêt. Enfin, l'OTAN est beaucoup plus fort que la Russie sur le plan militaire. Il n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que le risque n'existe pas. Et je dirais même, j'ai le sentiment que le risque est quasiment de plus en plus présent au fur et à mesure que les...
Il en joue, c'est la stratégie du fou. Attention, vous avez un fou au Kremlin ?
Oui.
Alors,
oui, Marie-Cécile Nave.
Pas la stratégie du fou, mais il joue sur la peur et sur jusqu'où ne pas aller trop loin, mais quand même un peu pour inquiéter les adversaires.
Pour imposer ses vues.
S'il sent que c'est perdu aussi, il pourrait décider de détruire complètement... un pays et d'aller jusqu'au chaos total parce que l'Ukraine est perdue pour la Russie. On peut tout imaginer.
Ce que je voulais vous dire, c'est quand même, ce qu'il faut que nos téléspectateurs aient en tête, la disproportion des forces. Si vous ajoutez le budget militaire de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, qui sont trois alliés de l'ancienne OTAN, sans même parler de la Turquie ou de la Grèce, de ces trois grands pays, vous avez à peu près deux fois et demi à trois fois le budget de la Russie, le militaire de la Russie. Donc, en termes de budget d'argent dépensé dans les armes et dans nos marines, dans notre armée, on est loin devant. Maintenant, on a plusieurs fois souligné que l'Europe n'était pas prête à une guerre de haute intensité. C'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est cela que joue Poutine.
Une guerre de haute intensité ?
Une guerre de haute intensité, c'est une guerre de très intense en munitions et en matériel pendant très longtemps. Et on a souvent dit que la France n'avait pas les stocks de munitions suffisants pour ça. Ça ne veut pas dire que l'OTAN ne les a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en ce moment une volonté, justement, que vient vérifier Joe Biden en venant en Europe cette semaine, de vérifier que l'OTAN est bien solide sur ses appuis, unis, et d'une certaine manière, relever les compteurs, voir un peu qui va dépenser, comment il va dépenser et qu'est-ce qu'il y a dans les stocks. Mais il ne faut jamais oublier qu'en termes de simple budget militaire, on est très très loin devant la Russie, bien loin devant la Russie.
François Baudonnet, on est tranquillement là en train de disserter sur un possible conflit entre l'OTAN et la Russie. Ce sont des scénarios dont on ne parle pas, mais qui évidemment inquiètent en haut lieu et dans les chancelleries européennes. On se prépare à...
On
réfléchit.
Tous les scénarios, évidemment, sont envisagés, mais ça explique, je crois, surtout la très très grande prudence des chancelleries et dans les capitales européennes, justement pour ne pas mettre le doigt dans cet engrenage qui serait un engrenage fatal qui entraînerait l'OTAN dans cette guerre. Il y a quand même un point, moi, je crois, sur lequel Vladimir Poutine est, faut être prudent, mais peut-être en train de gagner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est peut-être parce que nous, on est en campagne électorale en France, mais quand même, la guerre est en train de s'installer, et j'ai le sentiment qu'on en parle un peu moins, en fait, dans les médias. Alors, encore une fois, il faut voir ailleurs, parce que dans l'Est de l'Europe, c'est sûrement différent. Et puis nous, on a cette campagne électorale française qui va prendre au fur et à mesure le devant de l'actualité. Mais quand je dis qu'il est en train de gagner, c'est que peut-être les Européens sont en train de s'habituer. En fait, on a un conflit ouvert en Ukraine, extrêmement violent, avec des dizaines peut-être de milliers de morts, voire plus. Et au fur et à mesure, eh bien, finalement, est-ce qu'on est en train de s'habituer? Parce que la pression des opinions publiques, il va y avoir une séquence diplomatique très importante en fin de semaine à Bruxelles. Mais on sait que la puissance, la pression des opinions publiques sur les gouvernants est très importante. Si les opinions publiques commencent à se détourner, on ne sait pas ça du tout. On voit qu'il y a quand même encore une très forte mobilisation, en particulier d'entraîner. Mais si jamais on rentre dans une sorte d'habitude par rapport à ce qui se passe en Ukraine, alors, d'une certaine façon, Vladimir Poutine aura gagné.
Marie-Cécile Nave, la pression de l'opinion publique et la force des images, si, comme le craint Joe Biden, Vladimir Poutine venait à utiliser des gaz chimiques ou des armes biologiques, est-ce que les Européens pourraient continuer tranquillement à regarder cette guerre dans leur sofa? Oui, non, là, il y aurait des appels pour « maintenant, ça suffit ». On aurait même des volontaires pour aller en découdre.
C'est pas écarté. Je trouve qu'il y a quand même une assez forte inquiétude dans la population française. Enfin, c'est pas scientifique, hein, ce que je dis. Ouais, c'est un ressenti, une impression. On voit qu'il y a certains acteurs économiques qui ralentissent un peu, comme l'immobilier ou d'autres, parce que les gens ont du mal à se projeter. Bon, tout ça, c'est vraiment du ressenti, des impressions. Il n'est pas impossible, effectivement, que si des armes chimiques ou biologiques sont utilisées juste à nos frontières, et puis on se rappelle du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté, soi-disant, à la frontière est de la France, ça peut faire peur dans le ressenti, dans les imaginaires, dans les représentations collectives, et on ne sait pas ce que ça peut avoir comme effet très concret sur, effectivement, les volontés de se mobiliser et de riposter.
Alors, vous parliez du ressenti et de cette sorte d'inquiétude, c'est Le Parisien qui nous apprenait hier que la demande d'abris anti-atomiques explosait. Ça ne veut pas dire qu'on les commande, mais ça veut dire qu'on se renseigne. Je vous propose justement de voir ce sujet étonnant. C'est en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, la quasi-totalité des logements sont équipés d'abris anti-atomiques dans les caves. Bah justement, les Suisses sont en train de faire un peu le ménage, ou en tous les cas d'aller les regarder au cas où, on ne sait jamais. Voyez ce sujet de Nicolas Fleury avec Stéphane Gaudry.
Sous le jardin de Daniel Burguin, derrière cette porte de 20 cm d'épaisseur, se cache un bunker. Un filtre à air, des lits, ici tout l'équipement nécessaire pour se protéger d'une attaque nucléaire ou chimique. Même si ce Suisse a du mal à se voir enfermé ici.
Il faudrait stocker vraiment beaucoup d'eau et de nourriture pour avoir une réelle chance de survie. Mais sincèrement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à imaginer.
En Suisse, les abris anti-atomiques sont obligatoires dans les nouvelles constructions depuis les années 60. Beaucoup les utilisent aujourd'hui comme des caves, mais en cas de besoin, ils doivent être dégagés en quelques jours. Avec 9 millions de places, la Suisse pourrait héberger toute sa population dans ces abris.
Anthony Bélanger, déclaration hier. Enfin, il répondait à une question, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans Le Parisien. Il dit « Nous avons assez d'iode pour couvrir tous les besoins de la population si c'était nécessaire ». Franchement, est-ce qu'il faut se rassurer quand le ministre de la Santé dit ça, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je trouve que c'est pas rassurant, cette phrase.
Non, mais en fait, que les gens soient inquiets, c'est bien normal. La guerre était un impensé en Europe depuis maintenant. Certains disent depuis. Oui, 90-91, il y avait eu la guerre dans les Balkans, mais on se sentait pas forcément concerné directement là. C'est les vieux réflexes de la guerre froide qui reviennent avec l'ennemi russe. Ça fait quand même beaucoup pour des gens qui, quelques générations que ce soit, et qui peuvent raconter, y compris à leurs enfants, ont ça en tête. Donc, on comprend leur inquiétude, et d'une certaine manière, elle est saine. Parce que les Français, vous disiez tout à l'heure qu'ils pourraient se désintéresser. Vous avez raison, en grande partie, notamment les médias, mais il y a quelques antidotes à ça. D'une part, l'inquiétude des Français. D'autre part, la vague de réfugiés. On en est à 3,5 millions, voire 4 millions bientôt, peut-être, disent l'ONU, hein, et quelque chose comme entre 4 et 5 millions de réfugiés. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, nous allons devoir faire face à une des vagues de réfugiés les plus importantes de l'histoire de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un puissant antidote à l'indifférence.
Oui, parce qu'ils seront sous nos yeux.
Ils seront sous nos yeux, exactement. Ils pourront raconter leur histoire. Donc on voit bien qu'on a... Et ensuite, parce que je pense qu'il y a un réflexe presque légitimiste des Français. C'est-à-dire qu'enfin, vous savez, depuis quelques années, à force de ne pas penser la guerre, de ne pas penser la paix, de ne plus savoir qui était le bon et le méchant, les Français avaient un peu perdu leur boussole idéologique, ou en tout cas la façon d'imaginer le monde. Là, clairement, il y a un agresseur, un agressé. On sait qui est le méchant et le bon. Et on le voit d'ailleurs. Il y a une partie des gens qui sont rassurés, en tout cas, qui se retrouvent dans un discours qui leur semble plus simple et plus facile auquel adhérer.
Alors, François Baudonnet, il demande autre chose qui peut-être est plus facile, le président Zelensky. Il dit « Ne sponsorisez pas, s'il vous plaît, les armes de guerre de la Russie ». Et c'est vrai qu'on a appris, c'est une ONG finlandaise qui a donné ce chiffre. Depuis le début de la guerre, le 24 février, nous, les Européens, avons acheté pour 17 milliards d'euros de pétrole, de gaz et de charbon à la Russie. Alors, est-ce que là, pour le coup, il y a peut-être une lâcheté européenne que de continuer, pour notre petit confort personnel, à se fournir en gaz et en pétrole russe?
Oui, il y a même un autre chiffre qui est d'un milliard d'euros par jour. Un milliard d'euros par jour que l'Europe envoie à la Russie pour lui acheter des hydrocarbures. Là, au centre de ça, je crois qu'il y a vraiment l'Allemagne. Il y a vraiment l'Allemagne parce qu'on sait que c'est l'Allemagne qui refuse catégoriquement, et en particulier Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui refuse cet embargo sur le gaz. À la fois, il n'est pas dans une position très simple, parce que si vous regardez les sondages en Allemagne, on parlait de la pression de l'opinion publique tout à l'heure, en gros, c'est assez équilibré. Vous avez quasiment un Allemand sur deux qui serait pour un embargo, et quasiment donc l'autre moitié qui serait contre un embargo. Donc l'Allemagne, je crois, est au centre des discussions. Il va y avoir donc un sommet européen jeudi à Bruxelles. L'embargo qui était sorti par la porte il y a quelques jours, on n'en parlait plus, est en train de revenir par la fenêtre parce que la pression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, on voit ce qui se passe sur le terrain et les Européens sentent bien qu'ils doivent faire plus. Ils ne peuvent pas simplement se contenter de faire des sanctions économiques telles qu'elles ont été décidées. Il faut aller plus loin. Donc l'embargo est en train de revenir, ce qui ne veut pas dire que ça va être décidé jeudi. Mais en tout cas, c'est à nouveau sur la table.
Marie-Cécile Nave, est-ce qu'il faut revisiter l'héritage de Angela Merkel qui, au fond, à force de faire du business, s'est mis les mains dans... mange maintenant le gaz de... On a une Allemagne totalement dépendante du gaz de Vladimir Poutine.
Oui, et c'est le gros point de désaccord au sein des 27, hein, comme vous le disiez, hein, sur la question de l'embargo. Joe Biden va aussi mettre la pression, sans doute, sur les Européens.
Parce qu'il est en Europe,
Il est en Europe. Sans doute que ça va être au menu des discussions, parce que lui a pris des mesures extrêmement strictes d'embargo du pétrole russe, bon, qui n'affectent pas du tout... Le bon fonctionnement de l'économie et la vie des ménages aux États-Unis, parce que les États-Unis sont un énorme producteur de pétrole, ils s'autosuffisent presque. Et en plus, c'est une petite revanche des gros pétroliers américains
qui peuvent d'ailleurs nous vendre leur gaz de schiste. Mais bon, ils ne font pas ça pour ça. Mais...
Qui étaient un peu chagrinés des mesures des ambitions écologistes sur l'extraction des énergies fossiles, etc. Et peut-être qu'il y a dans l'esprit de Biden, mais encore une fois, il ne peut pas. C'est compliqué parce que il y a peut-être dans son esprit l'idée qu'effectivement les Européens pourraient importer des hydrocarbures américains, mais c'est du gaz liquéfié, on n'a pas les moyens de les traiter, etc. Donc ça prendra des années. Mais peut-être qu'il a ça quand même en tête, et sans doute qu'il va essayer de mettre la pression sur les Européens pour que l'embargo réel contre le pétrole et le gaz russe se mette en place.
Alors il faut juste bien Anthony
Bélanger.
Une chose très importante, il y a deux marchés. Il y a le marché du gaz et le marché du pétrole et du charbon. Ce que va proposer Joe Biden à l'Union européenne, c'est un embargo sur le pétrole et le charbon. Parce que ça, c'est immédiatement substituable. C'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué. En quelques semaines, vous pouvez importer du charbon d'ailleurs. Et en quelques semaines, vous pouvez importer du pétrole d'ailleurs. Or, figurez-vous que le pétrole rapporte deux fois plus que le gaz à la Russie. La Russie exporte 5 millions de barils par jour dans le monde. Nous lui importons la moitié de ce pétrole brut. Donc, punir la Russie rapidement, c'est non seulement décréter un embargo sur le pétrole qu'on peut importer sans problème parce qu'on a les infrastructures ailleurs. Et en plus, la Russie serait face à un énorme problème. C'est un énorme stock de pétrole qu'elle devrait vendre à d'autres personnes et qu'elle vendra en plus moins cher parce qu'elle le vend avec une décote de 25 à 30% dès qu'il ne va pas en Europe. C'est les marchés naturels auxquels ils vont. Donc en fait, ce serait très efficace et pas si compliqué que de mettre en place un embargo sur le pétrole et le charbon. Et le gaz, et c'est une autre affaire. Ça vient par des tuyaux, on n'est pas substituable rapidement.
Juste quelque chose, parce que les choses sont assez complexes. Parce que les Russes ont bien compris que les Européens travaillent là-dessus, sur ce que vous dites, un embargo sur le pétrole et sur le charbon, mais pas sur le gaz. Mais ils ont dit hier, un responsable russe a dit, bon, écoutez, c'est simple, si vous faites un embargo sur le pétrole, on coupe le gaz.
Ah ouais.
Alors voilà, donc forcément, ça fait monter la pression sur les Européens, dont certains, on le sait, on l'a dit, n'ont pas du tout envie de voir le gaz coupé.
Alors, Joe Biden, on parlait de lui. Joe Biden, une attitude très dure vis-à-vis de la Russie. Embargo, vous l'avez dit, Marie-Cécile, à la fois sur le pétrole et sur le gaz russe. Eux, ils l'ont fait. Et attitude très dure dans les mots, puisque Joe Biden, vous allez le voir, a traité Vladimir Poutine, le président des États-Unis, de criminel de guerre. On écoute cet extrait.
Non.
Marie-Cécile Nav, oui. Au début, il comprend mal la question, il revient sur ses pas, il dit « Ah oui, Joe Biden, Vladimir Poutine est un criminel de guerre ». D'abord, est-ce que ça vous a surpris, cette scène, comme ça, en passant ? Les mots sont très durs. Et est-ce que c'est... À quoi ça sert de traiter quelqu'un, enfin de dire que c'est un criminel de guerre ?
C'est un peu dans les mêmes circonstances dans lesquelles il avait dit que Poutine est un tueur, au détour d'une question un peu qui semblait au hasard. C'est pas vraiment du hasard, je pense. Ah. Non, pas forcément qu'ils anticipaient ça avec le journaliste, mais bon, on ne sait jamais. Mais il ne dit pas, c'est pas quelque chose qui lui échappe. Et le fait qu'il le dise incidemment peut laisser penser que oui, il le pense vraiment, c'est vraiment sa conviction, c'est pas comme il l'a pas forcément travaillé dans une conférence de presse officielle, donc c'est sa véritable conviction.
Sur le fond maintenant, on sait que les Américains, la grande affaire du 21e siècle, c'est l'Asie. Les voici rattrapés par l'Europe. Comment vivent-ils les choses et jusqu'où sont-ils prêts à se réengager sur le théâtre européen?
Alors Biden profite de la crise et de la guerre en Ukraine pour réitérer ses hostilités, ses menaces sur la Chine. Parce qu'il a mis en garde, il a rencontré en visio le président chinois pour le mettre en garde contre les énormes sanctions supplémentaires qu'il encourt si jamais il essaie d'aider la Russie, soit militairement, même si c'est en général plutôt dans l'autre sens que ça se passe, mais aussi pour aider la Russie à contourner les sanctions occidentales, ce que la Chine est très prudente vis-à-vis de ça parce qu'elle ne veut pas s'aliéner justement les marchés occidentaux et avoir des sanctions supplémentaires. Ça lui permet à Biden de réitérer le discours très vindicatif contre la Chine, mais c'est vrai qu'il a aussi cette question russe qui fait comme un nouveau front diplomatique. Il a deux fronts diplomatiques à gérer. C'était pas forcément prévu comme ça. Il avait rencontré Poutine dès qu'il est arrivé au pouvoir, pensant que ça pourrait apaiser les choses. Il y avait aussi la réitération des traités de désarmement entre les deux pays. Et puis on voit bien que ça s'est pas passé comme prévu.
Donc, Anthony Bélanger, au fond, on a des États-Unis qui montrent les muscles sur deux fronts. Un vis-à-vis de Vladimir Poutine, avec attention. Et deux, vis-à-vis de la Chine, en disant attention. Et d'ailleurs, pensez-y un jour pour Taïwan.
Mais vous savez, quand la Chine échange 1 avec la Russie, elle échange 4 avec les États-Unis et 5 avec l'Europe. Donc on voit tout de suite où sont les intérêts chinois. Que la guerre ne s'étende pas trop.
Ce que vous voulez dire, c'est que la Chine, quand elle voit ce qui se passe, elle ne voit pas une guerre, elle voit un business qui s'écroule, quoi.
Elle voit ses routes commerciales qui sont encombrées. En plus, elle est en période de confinement en ce moment, tétanisée par la résurgence de la Covid-19 sur le territoire chinois. En plus, elle a une crise immobilière abyssale à gérer. En plus, elle paye le pétrole, certes, au même prix que nous, et le gaz au même prix que nous, et le charbon au même prix que nous. Ça commence à faire beaucoup pour une économie chinoise qui était un petit peu en convalescence. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que Biden, vous déposiez l'exemple tout à l'heure, pourquoi est-ce que Biden se permet de dire que c'est un criminel de guerre ? Parce que c'est le seul qui le peut.
C'est le seul, et c'est ça qu'il dit.
Parce qu'on a un Emmanuel Macron beaucoup plus prudent dans sa relation.
Emmanuel Macron est en tête à tête avec la Russie, comme tous les autres pays d'Europe. Donc il aménage. La Russie est un problème pour l'Europe, pas pour les États-Unis, ni d'un point de vue commercial, ni même d'un point de vue de force militaire. Mm. Ce que fait Joe Biden, c'est quand il dit, quand il parle de Vladimir Poutine comme un criminel de guerre, c'est parce que c'est le seul leader occidental à pouvoir le dire. Et à ne pas encourir de rétorsions en échange. Et c'est d'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que moi je pense depuis le début que c'est le retour définitif, absolu, imparable des États-Unis sur la scène mondiale et notamment sur la scène européenne et que cette victoire, on la doit notamment à Joe Biden, enfin cette victoire...
Ce retour
des États-Unis, on le doit à Joe Biden qui connaît la grammaire de la guerre froide, qui était encore une fois au membre de la, qui est un vieux de la vieille, qui a connu et la guerre froide et qui était déjà en position de pouvoir à l'époque de Jimmy Carter dans les années 60, à la fin des années 70, d'une part, et d'autre part, d'un ministre des Affaires étrangères américain absolument incroyable, Anthony Blinken, dont croyez-moi, on en parlera dans les années à venir.
François Bedonnet, quand on voit Emmanuel Macron qui, lui, s'entretient avec le criminel de guerre, c'est quoi, c'est good cop, bad cop? Il faut toujours être deux pour cuisiner la bête?
Alors, ce qu'on explique à l'Élysée, c'est qu'on ne peut pas à la fois parler à quelqu'un et l'insulter par ailleurs. Ah, c'est ouais. Juste pas possible. Donc, d'accord. C'est pour cette raison, pour maintenir ce canal de discussion qui, pour l'instant, n'aboutit à rien, il faut le reconnaître, mais pour garder ce canal de discussion ouvert, on n'utilise pas, en tout cas côté français, ces termes. Mais au niveau européen, il y a quand même eu des termes très forts qui ont été employés contre la Russie. Alors, les Européens, par exemple, Josep Borrell, qui est le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, à plusieurs reprises, et encore hier, il a parlé de crimes de guerre. Il n'a pas dit que Vladimir Poutine était un criminel de guerre, mais à plusieurs reprises, il a parlé de crimes de guerre. Ursula von der Leyen, également la présidente de la Commission européenne, c'était d'ailleurs sur l'antenne de France Info. Donc quand même, les Européens ont des mots très forts, mais ils dénoncent plus une situation, on va dire, des actes qui sont commis, mais ce n'est pas directement une insulte au chef d'État russe.
On revient à la séquence. Hein. D'abord les États-Unis, et puis ensuite les Européens qui nous amènent à embraye en parlant de crimes de guerre et en parlant pas de criminels de guerre. C'est important, ce petit détail.
Un mot, Marie-Cécile Nave, sur le retour des Américains. C'est vrai qu'ils nous avaient prévenu, les Américains, que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine. On n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, ils nous mettent en garde contre l'usage d'armes chimiques. Le renseignement américain reste très puissant. Comment savaient-ils, les Américains, que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine, alors que nous, il n'y avait personne en Europe pour le croire?
C'est l'interprétation des renseignements, des informations qu'ils avaient, qui ont varié entre une rive de l'Atlantique et l'autre. Il y avait les mêmes.
La lucidité était à Washington, elle n'était pas en Europe, sur les intentions de Poutine.
Peut-être on peut le dire en ces termes, effectivement. L'interprétation, l'anticipation, la prévision étaient différentes, à partir probablement quand même des mêmes informations qui sont partagées, hein, au moins en partie, entre les services de renseignement. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'était pas du tout prévu par Biden, hein, de revenir sur la scène européenne et que l'OTAN soit de nouveau très actif et revigoré par Poutine sur la scène européenne. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu par le président Biden.
Joe Biden, si un pays de l'OTAN est touché, qu'est-ce qu'il fait
L'article 5 de l'OTAN dit que dès qu'un pays de l'OTAN est touché, il y a une solidarité et que... Donc
il envoie les boys à Varsovie.
Les boys, ça paraît difficile à envisager aujourd'hui. Enfin, en même temps, il faut être très prudent dans ce qu'on peut envisager, parce que l'image des boys qui s'engagent sur le terrain, ça serait dévastateur pour sa politique intérieure. Après, notamment, le retrait d'Afghanistan, etc., il y a des élections de mi-mandat à la fin de l'année qui vont être difficiles pour la majorité démocrate. Ça serait une image très, très négative pour l'opinion publique américaine, y compris chez les républicains, d'ailleurs.
François Bedonnet, oui.
Juste un point sur l'article 5 de l'OTAN. Il n'y a quand même pas d'automaticité absolue.
On peut avoir une réponse graduée, c'est ça?
Oui, bien sûr.
C'est pas tout à fait automatique. C'est-à-dire que si un missile tombe sur le sol polonais, ça ne veut pas dire qu'on est immédiatement dans la guerre mondiale.
Non, juste
un point quand même, pour répondre à votre question sur Biden. Il a quand même été très clair. Il a dit justement, si la Russie intervient sur... 1 centimètre, je crois que lui, il a dit 1 pouce en anglais, sur 1 centimètre du territoire de l'OTAN, alors...
C'est une ligne rouge.
Alors nous interviendrons, quand même.
La ligne rouge, ça rappelle celle d'Obama.
Juste, mais ce n'était pas l'OTAN.
C'était pas l'OTAN.
Juste une petite chose très importante.
en fait, il gagne des points, Biden, y compris à l'intérieur. Il a vu une petite résurgence, une petite remontée de son taux de popularité qui était très bas avec cette affaire de Russie, parce qu'en fait, les Américains comprennent ça, comprennent ça très bien. L'ennemi
ils
russe...
Ils suivent ce conflit. C'est l'Ukraine, ils savent où c'est.
C'est pas tellement qu'ils savent où l'Ukraine c'est qu'ils savent ce que la Russie est. C'est-à-dire que la Russie, ils sont habitués à le voir comme l'ennemi. Et en fait, chaque président américain, on a vu ça à chaque fois, de manière caricaturale au moment de George Bush, aussi bien pour la guerre d'Irak que pour le 11 septembre, est confronté à un risque de guerre ou une guerre. Vous avez une remobilisation autour du président en exercice et une remontée de sa cote de popularité. Et là, et on voit qu'en plus, quand, sondage après sondage, on voit que les Américains, républicains comme démocrates, approuvent largement sa politique de sanctions vis-à-vis de la Russie.
Marie-Cécile Nave, c'est... L'ennemi classique, la Russie, donc pour les... ça leur parle donc cette guerre de l'intérieur aux Américains ?
Oui, ça leur parle. Il y a trois ennemis qui font à peu près consensus, la Russie, la Chine et l'Iran, dans la population américaine. Peut-être un peu plus chez les élus quand même que dans la population. Ce que la population voit, c'est aussi les effets très directs, à savoir l'inflation. Ouais. Et d'ailleurs, Joe Biden dit régulièrement, s'il y a de l'inflation, si vous avez un peu de mal dans votre vie quotidienne...
C'est la faute de Poutine.
C'est à cause de ce qui se passe en Russie.
Voilà. Alors, comment le peuple russe, lui, voit-il de l'intérieur ce conflit en Ukraine ? Soutient-il Vladimir Poutine ? Soutient-il cette opération spéciale ? Je vous propose de regarder ce reportage très éclairant et parfois tout en subtilité, vous allez le voir dans les réponses, de Benjamin Delombre et Patrice Achéré. C'est donc sur ce que le peuple russe, comment le peuple russe juge-t-il, voit-il, analyse-t-il cette guerre en Ukraine. On regarde.
À Nijni Novgorod, à 500 km à l'est de Moscou, c'est l'une de ces manifestations appréciées des partisans du président Poutine. Cet après-midi, ces jeunes célèbrent les 8 ans de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais dans les esprits, il y a surtout ce qu'on appelle ici l'opération spéciale en Ukraine.
On n'abandonne pas les nôtres.
En ces temps difficiles, on veut les soutenir.
Vous seriez prêt à y aller, vous ?
Oui, on va y aller. On a un contrat, on va bientôt partir.
Derrière les drapeaux et les hymnes, impossible de savoir quelle part de la jeune génération russe soutient comme eux l'opération en Ukraine. Mais tous ont en tout cas vu débarquer ses conséquences dans leur quotidien. L'accès à Facebook, à Twitter a été limité. Instagram a cessé son activité. Anastasia avait misé sur le réseau social pour toute la publicité de son commerce de fleurs.
Maintenant, je ne peux plus vendre autant de fleurs qu'avant. Je vais devoir abandonner mon rêve et trouver un travail alimentaire.
Aujourd'hui, elle n'a plus d'emploi, mais elle l'assure, se sentir isolée, à l'écart du reste du monde, est plus dur encore.
On essaye de trouver des informations pour se prouver qu'il existe un autre monde. Il y a énormément de choses que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire. Et tout ça, ça me fait peur.
En Russie, chaque mot doit être pesé, surtout devant la caméra d'une télévision occidentale. Critiquer publiquement l'opération spéciale en Ukraine est passible de 15 ans de prison. Depuis 3 semaines, une partie de la jeunesse russe se réfugie alors dans les non-dits. L'actualité récente ronge Natacha, 29 ans, qui travaille dans un café du centre-ville.
Beaucoup de mes amis sont partis. Et moi, je me pose des questions. Tout ce qui se passe, c'est comme un poids énorme sur ma poitrine.
Et ceux de ses amis qui sont encore là ne se font guère d'illusions pour la suite.
Il pourrait y avoir des répressions plus dures que les interdictions de manifester et les atteintes à la liberté d'expression. Tous les pires scénarios sont en train de se réaliser.
Avec l'opération spéciale en Ukraine, les restrictions pèsent chaque jour un peu plus sur les libertés publiques. En Russie, dans cette nouvelle ère qui s'annonce et dont personne ne connaît l'issue, de nombreux jeunes Russes savent qu'ils ont beaucoup à perdre.
Marie-Cécile Nave, on se demande qui pour faire tomber Poutine. On parle d'occidentaux, de guerre, etc. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a une contestation qui pourrait le menacer ?
C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de désinformation, il y a eu tellement de propagande qui a aussi beaucoup modelé les esprits. Et comme on le voit très bien dans le reportage, les gens ne peuvent pas véritablement dire ce qu'ils pensent, même si là, entre les lignes, on entend quand même pas mal de, pas mal de choses. Il semblerait que, ça apparaît aussi dans votre reportage, ceux qui peuvent partir dans la jeunesse partent. Ouais. C'est-à-dire une jeunesse qui est plutôt éduquée, qui a de l'argent, évidemment, au moins pour payer un billet d'avion ou de train. Parce que la première préoccupation des jeunes comme des moins jeunes en Russie, c'est de survivre. La monnaie s'est effondrée, les entreprises ferment. Et puis, il y a aussi l'accès aux réseaux sociaux, etc. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est le poids et l'implication de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui viennent de partir, mais ceux qui sont déjà installés dans d'autres pays. Par exemple, en France, il y a 5000 étudiants russes qui sont soutenus par les universités.
Qui doivent être stigmatisés, d'ailleurs, non ? Ça ne doit pas être facile d'être russe dans le monde. Hein.
Les universités françaises, en tout cas, ont communiqué, ont largement dit qu'elles les soutenaient. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe aussi. Faudra voir si la diaspora aussi peut s'organiser pour créer peut-être une riposte de l'extérieur. Mais ce qui se passe en Russie aujourd'hui est extrêmement difficile d'interpréter en termes d'esprit de contestation, etc. On voit quand même pas mal de manifestations. Hein, depuis cette journaliste Marina Anjoubet, notre famille,
qui est toujours libre.
Pour l'instant.
C'est une liberté, c'est fait exprès, sa notoriété la protège, c'est ça ?
On ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe. Il y a eu aussi un tel soutien occidental que... Il y a quand même pas mal de manifestations à Moscou, mais aussi à Saint-Pétersbourg. On en voit quand même tous les jours.
Anthony Bélanger, est-ce que dans l'entourage de Vladimir Poutine, on pourrait envisager, là aussi, je ne parle pas du peuple, je parle de l'entourage...
C'est vraiment du fantasme.
Il n'y a pas des services secrets qui essayent de noyauter, de susciter.
Écoutez, je pense qu'ils ne vont pas spéculer là-dessus parce qu'il y a une telle unité idéologique autour de cette classe dirigeante, cette petite classe, cette petite clique dirigeante.
Et une peur, sûrement.
Une peur, mais vraiment une unité. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ce sont des fous. Hein. Les idéologues ne sont pas des fous. Ils ont simplement une idéologie qui est chevillée au corps. Et cette idéologie nationaliste, extrémiste, grand russe, c'est ça en fait. C'est du nationalisme grand russe. Elle est partagée par pas mal de gens. On retrouve ces idéologues. Il avait même envoyé comme premier négociateur en Ukraine lors des premiers rendez-vous un de ses idéologues comme une provocation en fait pour montrer ce qu'il voulait en fait opposer aux Ukrainiens. Une idéologie nationaliste grand russe. Je voulais juste vous souligner qu'on sait qu'il y a depuis le début, grâce à une remarquable ONG locale qui malgré tout continue à survivre malgré la fermeture de Mémorial et d'autres qui s'appelle OVD je crois ou de VD Info, qu'il y a eu 15 000 arrestations depuis le 24 février en Russie pour des faits de manifestation. Et par ailleurs, il y a quelques petits signes quand même. Par exemple, hier, Komsomolskaya Pravda, qui est un journal, un tabloïd pro-russe, pro-Poutine, a publié pendant quelques minutes, 15 minutes, un article donnant un nombre de victimes russes de 9 861 morts en Ukraine depuis le 24 février.
Il y a 10 000 soldats morts en Ukraine.
C'est ce que ce journal pro-russe a publié. C'est énorme parce que les Russes ont perdu en tout 15 000 morts, par exemple, en 10 ans.
Et ça veut dire que les armes que nous fournissons aux Ukrainiens leur permettent de se défendre et d'abattre...
Mais ça, c'est ce qu'on disait depuis le départ. La résistance des Ukrainiens est très forte et en plus, leur tactique est très intéressante parce qu'ils ne se sont jamais opposés à l'avancée des armées russes. Ils se sont mis à taper derrière les lignes en petites unités mobiles et à faire le plus de morts possible. Or, ce qui s'est passé, c'est que cet article qui a été publié 15 minutes, hein, qui donc donnait les chiffres dits du ministère de la Défense du vrai nombre de morts. 9 861 morts, 16 000 blessés. Qu'est-ce que dit ce chiffre qui a été enlevé tout de suite? Il dit qu'il y a peut-être, soit que le journal a été hacké avec des chiffres, soit qu'il continue à y avoir en fond des journalistes ou des gens capables de résister au point d'avoir des chiffres, et y compris de les publier sur les médias, même s'ils ont été évidemment immédiatement démentis, ces chiffres.
François Beaudonnet, c'est Emmanuel Macron qui disait à Vladimir Poutine « Ton peuple va le payer très cher », et c'est vrai qu'on voit des mesures de rétorsion parfois jusqu'à l'absurde. Vous avez vu à Milan ses cours sur Dostoïevski arrêtés, à Cardiff, il y a un concert de Tchaïkovski qui a été annulé, à Florence, une statue de Dostoïevski menacée de déboulonnage également.
Oui, oui. Bah, je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, il fait pas bon aujourd'hui quand même d'être russe dans la partie occidentale de l'Europe. Évidemment, il y a un sentiment quand même anti-russe qui est tout à fait marqué, qui est d'ailleurs tout à fait exagéré parce qu'il faut faire évidemment une différence entre le peuple russe et le gouvernement russe. Mais c'est vrai que globalement, et là c'est les gouvernants, l'idée quand même de fond, pas ces petites, ce que vous venez de citer, mais l'idée de fond, c'est de rendre insupportable ce que cherchent à faire les Européens, c'est de rendre insupportable sur le plan économique, ce que se répète dans toutes les chancelleries, c'est de surenchérir au maximum le coût de la guerre pour la Russie, encore une fois, pour rendre ce coup-là totalement insupportable.
Et c'est en disant que ça soude le peuple, ça peut fonctionner quand, dès lors que ça devient insupportable.
Mais c'est,
le peuple russe, vous voulez
dire ? Ouais. On dit que ça peut souder les sanctions.
On peut y parvenir pour une raison très simple, c'est que la Russie est une économie de rente. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien. Ouais. Elle exporte des matières premières, gaz, pétrole, des armes aussi, du blé et des matrioshkas, j'allais ajouter. Ce que disait Josep Borrell, vous le citiez tout à l'heure, il y a quelques jours, est très intéressant.
Commissaire européen aux affaires étrangères.
Il qualifiait la Russie, il disait, la Russie, c'est une station-service accolée à une caserne. Point barre.
Bon, ben voilà.
Et donc,
c'est
voilà.
Sur cette description que se termine cette émission. On souhaite que cette guerre se termine au plus vite, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir participé à l'Info C'est Clair. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée. À demain.